BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business et les experts avec Guillaume Dard, Vincent Ponce et Gilles Raveau. Vincent, je me tourne vers vous. On va parler ensemble de votre étude absolument passionnante, coécrite avec, rappelez-moi,
Pierre Boyer.
Sur la démocratie, décidément, je suis obsédé par la démographie. Sur la démocratie, faut-il changer les règles du jeu? Vous partez d'un constat très net, qui est que 3 Français sur 4 jugent que la démocratie fonctionne mal. Présentez-nous rapidement les grandes lignes de votre étude.
L'étude commence par un certain nombre de constats. Donc la démocratie, en effet, fonctionne pas très bien. Les Français sont de moins en moins satisfaits de la façon dont elle fonctionne. Ils montrent une défiance croissante envers les élus, envers les institutions. La participation électorale baisse également, même s'il y a parfois des sursauts, comme en 2024 pour législative. Mais sur le temps long, depuis les années 1980, il y a une baisse très forte. La participation est aussi inégale, on en parlait tout à l'heure, entre les citoyens plus âgés et puis les plus jeunes. Il y a une montée des votes populistes, des votes extrêmes. Donc il y a quand même tout un ensemble de signaux ici qui sont inquiétants et qui entament la capacité de nos gouvernements à mener des réformes qui soient légitimes et qui génèrent un consensus. Et donc on a souhaité s'attaquer à ce problème en identifiant un certain nombre de réformes institutionnelles qui permettrait de renforcer la participation des électeurs, d'attirer toujours les meilleurs de nos concitoyens sur la carrière et la fonction élective, peut-être d'avoir une représentativité plus forte du Parlement et d'utiliser aussi davantage la démocratie participative, parce que beaucoup de Français disent qu'ils aimeraient être davantage associés de façon plus directe aux décisions qui sont prises par les gouvernements.
Est-ce que ça vient des institutions, ce blocage, ou est-ce que ça vient d'une évolution de la société? Alors, vous le dites, les propositions, c'est inscription automatique sur les listes électorales, un peu de proportionnel pour effectivement que l'Assemblée soit plus représentative et puis des élus mieux rémunérés. Mais est-ce que ça vient, est-ce que ce niveau d'abstention vient des institutions ou des gens qui nous dirigent?
Alors,
parce qu'on entend beaucoup finalement, les uns ou les autres, c'est un peu la même sauce et on n'avance pas.
L'abstention, elle a progressé pas seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, ce qui suggère qu'il y a des causes qui sont pas spécifiquement françaises. Une des interprétations, c'est qu'il y a un changement culturel important. On est passé d'une culture déférente où nos parents, nos grands-parents aller voter par sens du devoir civique sans trop se poser la question, à une culture avec des citoyens qui sont un peu plus critiques, qui vont aller voter s'ils perçoivent qu'il y a un enjeu important, qui sinon peut-être vont signer pétition, vont aller manifester. Donc il y a certainement des changements culturels importants, mais il y a aussi des réformes qu'on peut faire pour améliorer les choses. Vous avez parlé de l'inscription automatique sur la liste électorale. Il faut savoir que la façon dont on vote et dont on s'inscrit sur les listes en France, c'est une spécialité, une exception. Si vous regardez dans tous les autres pays, c'est l'État qui s'occupe d'inscrire les gens sur les listes. L'État, évidemment, dispose de la liste de l'ensemble des citoyens éligibles. Il connaît leur adresse, par exemple, avec les données d'impôt. Donc, il n'y a absolument aucune raison que, comme en France, on demande aux gens non seulement de se déplacer au bureau de vote, mais aussi de se déplacer pour aller s'inscrire sur les listes. Donc, ça, c'est des réformes qui sont faciles à faire. Il y a déjà eu des rapports de l'Assemblée nationale, du Sénat sur.
On pourrait peut-être un peu moderniser, effectivement, Guillaume Dard.
C'est formidable que Vincent fasse ce travail. Mais, comme il l'a dit, les démocraties souffrent partout dans le monde. La démocratie, ça n'est jamais un régime complètement naturel et complètement harmonieux pendant très longtemps.
Ni un régime acquis pour toujours.
Voilà, si vous prenez d'abord la première grande démocratie grecque, connue, Athènes, comment ça fonctionnait Athènes, comment est-ce qu'ils faisaient les citoyens pour être à l'agora tous les jours? C'est qu'il y avait 50% d'esclaves à côté qui travaillaient. Si vous prenez la deuxième démocratie, que ça n'a pas duré vraiment très longtemps à Rome, même système, les esclaves. Prenez la grande démocratie qui a été créée, la République américaine, même système. Au début, c'était aussi des esclaves. Bon, alors après, heureusement, il n'y avait plus d'esclaves. Les choses se sont arrangées. Le bonheur de la démocratie, il y a le livre de Tocqueville fantastique, parce que je crois qu'il faut aller quand même très loin pour comprendre. Parce que démocratie, si vous prenez le 19e siècle français, on a changé cinq fois de régime. Mmh. Et il y a le moment de 1848, bien décrit dans Tocqueville, où Tocqueville va voter dans le chef-lieu, à côté de l'endroit où il habite, avec tous les paysans de son village qui le suivent et qui sont extrêmement heureux d'aller voter. Et ce que Vincent dit bien, c'est que finalement, le bonheur d'aller voter dans une société individualiste, on dit dit bah non. Alors, et je suis d'accord qu'il faut simplifier par ça.
C'est un droit qui, dorénavant,
est digéré. Les démocraties n'ont jamais été aussi clivées. Si vous prenez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, et pourquoi ? Parce que, un, ce sont des structures organisationnelles très complexes où les gens se disent qu'ils n'ont quand même pas un rapport commun. La démocratie, elle marche bien en Suisse, qui est un petit pays, parce que c'est assez simple, c'est assez visible, on peut aller voter tout le temps, mais au fond, il y a 10 millions de Suisses, donc c'est faisable. Dans nos structures, à 70 millions de personnes en France, dans un monde extrêmement agité, où les gens sentent, c'est pas qu'ils disent que les politiques veulent rien faire, c'est qu'ils voient bien que les politiques, ils sont ballottés de crise mondiale en crise mondiale, et que leur capacité d'agir, elle est relativement faible.
C'est assez limité.
Alors, il reste le moment de l'élection présidentielle, où là, on a le sentiment que peut-être ça peut un peu bouger, mais et des municipales, où aussi, même, ils votent pas énormément, mais ils ont le sentiment que le maire... Pour le reste, ils ont le sentiment d'être ballottés. On a une crise démocratique. J'espère que les solutions de Vincent le régleront. Il n'est pas exclu qu'on sorte, on ait un basculement. Est-ce qu'on va tomber dans quelque chose de très, très, très autocratique, ce qui se passe aux États-Unis?
Il y a un désir dans l'opinion publique qui monte.
C'est un risque.
Pouvoir fort.
Est-ce qu'on va passer dans un système, si on est comme dans les années 30, c'est là où on avait des démocraties partout en Europe, dans les années 20,
oui.
Dans les années 30, on a eu le fascisme italien, le fascisme allemand, le communisme soviétique, et un débat en France qui a débouché sur le maréchal Pétain. Donc, on est dans un moment de basculement. C'est pas gagné, la démocratie.
C'est pas gagné, la démocratie, Gilles Raveau, nous dit Guillaume Dard. Est-ce qu'en changeant les institutions, en mettant en place l'inscription automatique sur les listes électorales ou en regroupant les élections locales, municipales, départementales et régionales, comme le propose Vincent Pons, on pourrait améliorer un peu la participation démocratique qui, décidément, la participation démocratique qui souffre de plus en plus structurellement.
Vous avez envie de faire des enfants, Raphaël ?
Qu'est-ce qui se passe ? Donner, merci.
Quelle est cette obsession démographique ? Oui, il y a quatre propositions dans la note qui est effectivement très intéressante, cette idée d'inscription automatique sur les listes électorales. Je pense que c'est important, et on n'est pas bon pour ça en France, mais dans aucun autre pays, c'est pareil, de mettre des propositions pragmatiques au cœur du débat politique, parce que ça fait pas rêver. Mais en fait, souvent, les petites choses, on est bien placé dans notre économiste pour savoir que des petits changements organisationnels peuvent avoir des grandes conséquences. L'intérêt de la note, c'est qu'il est deux côtés en fait du marché politique. Il y a l'offre et la demande, pour utiliser les termes de la science politique et de la science économique. J'aime bien l'idée vraiment de regrouper les élections locales. C'est tout bête, mais ça aura aussi là des grandes conséquences, je pense, sur la participation. Le fait d'améliorer la rémunération des élus, de leur donner les moyens de travailler, je pense que notamment, bon là, forcément, on est d'accord avec Vincent, sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait enfin vraiment, surtout avec les outils modernes aujourd'hui, informatique, électronique et cette chère intelligence artificielle, qu'on ait enfin une vraie force de frappe à l'Assemblée nationale et au Sénat qui permettent d'évaluer en temps réel les propositions, notamment budgétaires, qui soient faites. J'irais même pour que
ça fait longtemps qu'on en parle.
Oui, ça fait
beaucoup
très
de mal à mettre en place.
Mais nos élus, je suis bien placé pour en avoir rencontré plusieurs. C'est fascinant. Les élus de différents bords politiques ne sont pas là pour vous écouter, ne sont pas là pour apprendre, ne sont pas là pour rendre des comptes. Ça, c'est très clair dans la culture française. Alors qu'il faudrait que justement toutes ces données soient en source ouverte, que n'importe quel citoyen puisse faire ses petits calculs. Enfin, il y a plein de sites qui multiplient la transparence. Ça vient jamais des partis politiques, c'est très impressionnant. La dose proportionnelle ouverte, ça aussi, je suis tout à fait favorable à ça. Alors, je ne sais pas si Vincent connaît ça, mais il y avait un papier génial en 2006 de Torben Iversen et de David Soskis, un politiste et un économiste, qui avait montré sur longue période, depuis la fin des années 1940, donc jusqu'au début des années 2000, qu'il y avait une corrélation très forte entre le système politique et le résultat des élections. Et il montrait, c'était dingue, que dans les pays où il y a de la proportionnelle, la gauche l'emportait les trois quarts des fois, et dans les systèmes majoritaires, la droite l'emportait pour les trois quarts des fois. Et ils expliquaient ça avec notamment le comportement du parti médian dans les systèmes proportionnels, avec ce qu'ils appellent un modèle à trois parties. Je vous laisserai lire le papier, c'est un truc absolument génial. Ce que je rajouterais, c'est la démocratie au travail. Ça, je pense que s'il y a une mesure qui ne coûte rien,
oui,
et qui pourrait avoir des grands effets, c'est là-dessus. Et je citerai deux auteurs que j'aime beaucoup. Thomas Coutreau, sociologue du travail, qui a fait un long papier qui s'appelle « Le bras long du travail », où il montre une corrélation, justement, aux élections municipales entre la faible autonomie, la faible participation des gens dans leur travail, le fait qu'ils ne soient pas consultés quand il y a des restructurations, et l'abstention. Parce qu'effectivement, je trouve ce qui manque un peu dans votre note, c'est de plus insister sur le fait que Il y a une très forte différenciation selon les catégories socio-professionnelles dans le rapport au vote. Oui. Et le premier vote des ouvriers, c'est l'abstention, évidemment. Et le deuxième, c'est le Rassemblement national. Et donc, Thomas Coutreau nous montre, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière sur les conditions de travail, que moins vous êtes consulté dans votre travail, moins on vous demande votre avis, moins votre opinion est respectée, plus vous vous disqualifiez comme expert, justement, sur ce que vous faites toute la journée, et donc vous vous disqualifiez aussi dans les autres sphères de la vie sociale.
Ouais, c'est intéressant. Yann Hagan avait fait une étude.
C'est un résultat classique.
C'est formidable.
Non, monsieur, là, vous avez explosé votre temps de parole. Et j'ai une autre référence à donner. C'est mon cher professeur Olivier Favreau, qui travaille depuis des années avec le Collège des Bernardins. Vous voyez, frère d'art, nous retrouvons le chemin de la religion, et qui a co-écrit un traité de co-détermination, et qui montre que, voilà, là aussi on a pas mal de résultats qui montrent que lorsque les salariés sont plus associés à la gestion des entreprises, eh bien, en fait, on a des meilleurs résultats à long terme sur la productivité des entreprises et sur le bien-être des salariés. Donc, je pense que je souhaiterais, moi, que dans la présidentielle, cette question de la démocratie au travail soit portée, et je rêve le soir en m'endormant que le MEDEF, par exemple, propose plus de démocratie au travail, mais ça, c'est juste mes petits rêves à moi.
Alors, je ne suis pas sûr, si on veut le programme de la productivité de Gilles Raveau, et qu'on prenne Elon Musk, je ne suis pas sûr que ça soit exactement un call-cause SpaceX, hein, et que donc les grandes inventions et les grandes avancées, tout ce système, c'est très bien quand on est dans une économie qui n'évolue pas. Quand on est dans un moment de rupture et d'innovation permanente,
les études montrent exactement l'inverse. C'est lorsque les... Non, mais là, je suis désolé. Non, mais il y a des gens qui travaillent. Les études montrent que, justement, lorsque les gens sont mieux, c'est justement ce qu'on a raté en France. C'est l'exemple type de ce qui a permis. Mais non, la réussite allemande, c'est ça. C'est bien parce que les salariés étaient au conseil d'administration que les entreprises allemandes, c'est plus vrai depuis quelques années, se sont bien mieux adaptées que les entreprises françaises.
Le régime des années 60. C'est-à-dire qu'on est tous... cherche l'âge d'or, je veux dire, pour la voiture, pour ce qui se passe. Ça va voter hein, chez Volkswagen, ça va voter, mais ça ne va pas empêcher qu'il y ait les Chinois qui arrivent. Donc c'est ça qui est très complexe. Dans des sociétés qui sont, entre guillemets, pas fermées, mais enfin qui sont relativement stables, on peut mettre en place un certain nombre de mécanismes. Ce qui est très compliqué, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien cette idée-là, je dis simplement... par rapport à la rapidité du monde. Regardez les histoires, je change à peine de sujet, sur la souveraineté, les dépenses de défense. En un an, on vient de comprendre avec les Ukrainiens, les Iraniens, que tout ce qu'on nous racontait sur les méga programmes de dépenses, où on allait faire encore plus exploser la dette française ou des pays européens, ce sont des dépenses absolument inutiles par rapport à la nouvelle guerre. Donc, tout ça n'est pas forcément faisable, ni par une planification, ni par un vote consensuel.
Je reviens à ce que vous disiez sur la démocratie en entreprise. Je veux citer ce papier de Yann Algan qui a commis un papier excellent. Exactement. Sur l'isolement. Exactement. Des salariés qui ont plutôt tendance à voter, oui, aux extrêmes quand ils sont isolés au sein de l'entreprise.
On a plein de travaux passionnants.
C'était très intéressant aussi. Vincent Ponce, je voulais venir sur un dernier point sur la démocratie directe, pour voir si pour vous, les conventions citoyennes, les référendums d'initiative populaire peuvent réconcilier. Est-ce que ça manque en France? Certains candidats prônent cette démocratie directe, peuvent réconcilier les Français avec la décision publique.
Oui, les conventions citoyennes, on a plusieurs pays qui les ont utilisées avec un grand succès pour trancher des débats qui étaient des débats épineux. Je pense notamment à l'Irlande qui a utilisé ses conventions citoyennes sur des sujets comme la fin de vie, comme l'avortement. C'était compliqué pour les élus de prendre une décision parce qu'il y avait au départ des tensions très fortes entre différentes parties de la société. Et puis, les conventions citoyennes qui ont ensuite débouché sur un référendum ont permis de trancher ces débats. Et sur la démocratie au travail, je rejoins ce que disait Gilles, on n'a pas pu tout traiter hein, dans la note, mais c'est vrai que le lieu de travail, évidemment, est un lieu essentiel, y compris sur les questions politiques, parce que tout un ensemble de débats sur le partage de la valeur ajoutée, sur la justice intra-intergénérationnelle, ont lieu aussi à l'échelle d'une entreprise. Et dans les tendances inquiétantes que je mentionnais tout à l'heure, vous avez aussi une polarisation affective croissante entre différentes parties de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un électeur de gauche ou un électeur de droite, vous détestez de plus en plus, tout simplement, les électeurs du camp d'en face. Et le problème, c'est que si vous regardez parmi vos amis, vos voisins, les membres de votre famille, vous êtes de plus en plus entouré de gens qui pensent comme vous. Et ça favorise évidemment cette animosité. Il y a un lieu, un endroit où on continue à rencontrer des gens qui ont un avis différent mais dont on respecte la vie, c'est nos collègues sur le lieu de travail. Donc, le lieu de travail peut aussi jouer un rôle pour dépolariser la société, avoir un débat plus apaisé, et sur les grands choix qu'on va devoir prendre, trouver un consensus.
Bon, le message est passé en tout cas au MEDEF, hein, qui nous écoute. Bon, un grand débat sur la démocratie au travail, si pourquoi vous, pas.
Tout ça est un très bienveillant, rapide, très positif. Guillaume. Sur des questions sociétales, on comprend bien. Mais s'il s'agit encore de rajouter des règles, monsieur le professeur Raveau, vous n'aurez pas votre productivité. Hein. Arrêtez de rajouter des règles.
Une réponse ?
Il y a des
règles. Mais c'est vrai, il y a une contradiction, hein. Raison,
non, parce que si vous voulez, alors là, je vais être très méchant, mais tant pis. Ce que vous faites, c'est la facilité française, c'est-à-dire que vous ne lisez pas les travaux dont on parle ici, vous permettez de vous exprimer sans savoir, et après vous faites des phrases faciles à la téloche. Ça, c'est facile.
Non, mais j'ai le droit d'avoir des opinions.
Tout le monde le sait, je n'ai pas beaucoup d'expertise sur aucun sujet.
Je m'exprime pas sur.
Mais basé sur le réel.
Enfin voilà, il y a un truc qui marquait les experts. Quand on connaît pas un sujet, on a le droit d'écouter les experts. Moi, je lis. Des gens comme Vincent Ponce, moi je produis assez peu de théories économiques, en tout cas pas du même genre, et donc non, quand on ne sait pas, on a le droit de dire qu'on ne sait pas.
Il y a une jolie réponse de Yogi Berra.
Voilà, c'est ça. Bon, voilà, on fait des mots pour ne rien dire. Et donc pour vous répondre, il y a des changements institutionnels qui permettent de gagner en flexibilité et donc en productivité.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Lisez les études que vous connaissez
pas. Mon cher Gilles, en théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose. En pratique, pas toujours.
Bon, on va passer au dernier débat. On vous mettra pas d'accord sur ce sujet. On voulait parler acier. C'est vous, Gilles, qui souhaitiez parler acier européen. L'Europe doit-elle fermer ses frontières ? L'Europe qui a réduit de près de la moitié ses quotas d'acier importé et qui a doublé ses droits de douane pour protéger effectivement une industrie indispensable. Mais est-ce que c'est pas au risque d'énerver nos voisins chinois, hein, qui étaient à Bruxelles il y a quelques jours encore, le ministre du Commerce extérieur qui a vu Maros Sefcovic. On a quelques sujets avec eux. Est-ce que l'Europe a raison d'assumer ce protectionnisme?
Alors d'abord, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est que l'acier ? L'acier, c'est un alliage de fer et de carbone, et c'est le carbone qui donne sa souplesse à l'acier. L'acier, c'est un alliage, donc c'est difficile à fabriquer, c'est extrêmement énergivore.
Et il y a différentes qualités, oui.
Partout, puisque dans tous les bâtiments, dans tous les voitures, dans tous les tramways, dans tous les métros, il y a de l'acier absolument partout. Et ce qui est assez étonnant, c'est que d'une part, alors en termes d'histoire des idées, on voit qu'on arrive à la fin du consensus en faveur du libre-échange, y compris dans notre profession. On a quand même une vidéo stupéfiante de Paul Krugman, un des plus grands prix Nobel de notre discipline des dernières décennies, qui a eu le prix Nobel justement pour ce qu'on a appelé les nouvelles théories du commerce international, qui hier s'est prononcé en faveur des droits de douane, et notamment de droits de douane européens, en disant, en fait, il dit, c'est très mignon, il dit, je suis désolé de ce que je vais dire, mais si les Européens ne mettent pas de droits de douane sur les voitures chinoises, leur industrie automobile va disparaître et ils ne peuvent pas se le permettre. Donc là, il y a un changement idéologique. Et après, donc moi, je suis quelqu'un de tout à fait protectionniste aux frontières nationales. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est dans l'histoire de l'acier, c'est que là, pour le coup, on a une étude très solide sur les droits de douane américains sur l'acier, dont on sait que ça a été catastrophique pour l'économie américaine, puisque ça a créé quelques emplois dans le secteur de la sidérurgie, au détriment de l'ensemble de l'économie, puisque les coûts de production, puisque vous augmentez un coût de production qui est au cœur, encore une fois, du système productif, et donc les voitures coûtent plus cher, faire des bâtiments, ça coûte plus cher, et donc ça a détruit des dizaines de milliers d'emplois. Donc je suis assez étonné que l'Europe fasse du protectionnisme sur l'acier. Alors, juste pour finir, il y aurait une logique, mais c'est assez long terme, et c'est très difficile dans une économie de marché, c'est la décarbonation, c'est-à-dire qu'il y avait notamment ArcelorMittal France.
Il y a beaucoup investi.
Voilà, qui s'était beaucoup engagé et qui n'arrive pas à décarboner parce qu'ils ne produisent pas assez en France, parce que, bah justement, comme la construction de voitures s'est cassée la figure, ce qui se passe, c'est que la production d'acier, comme la consommation d'acier baisse en Europe, la production baisse et donc ils n'ont pas les moyens d'investir pour faire et donc ils ont renoncé à l'objectif de décarbonation, en dépit ils avaient reçu quand même plusieurs centaines de millions d'euros d'aide publique pour faire ça. Donc en fait, ça pose une question qui est au cœur de mes enseignements à la fac, c'est qu'on voit bien en fait que dans une certaine mesure, il y a une contradiction assez fondamentale entre l'écologie et le libre-échange. C'est-à-dire que si vous voulez, en tout cas pour nous Européens, planifier à long terme, décarboner à long terme, eh bien vous ne pouvez pas effectivement laisser rentrer des produits qui ont été faits de façon plus polluante mais moins chère, puisque vous n'êtes jamais compétitif. La grande difficulté, c'est le problème de Trump aux États-Unis, c'est quand vous mettez des droits de douane, vous avez des pertes immédiates sur le bien-être des consommateurs, c'est comme une taxe effectivement sur l'économie.
C'est le consommateur qui paye à la fin, hein, toujours.
Qui peut amener, l'idée c'est que vous pénalisez le consommateur dans l'espoir de développer la production plus tard. Et en fait, c'est ça le pari. Mais c'est plus tard, est-ce qu'il y aura ce regain de production ? Et dans le cas de l'acier européen, je ne vois pas très bien effectivement la logique, encore une fois, de taxer ce truc qui est au cœur des processus productifs.
Vous parliez des États-Unis. Vincent Pons, je rappelle que vous êtes professeur à Harvard. Et Bruxelles veut former avec Washington un front commun contre les surcapacités chinoises. C'est un débat dont on parle, ça, aux États-Unis ?
Oui, évidemment, les États-Unis parlent beaucoup en ce moment du commerce, pour de bonnes raisons. Ils ont complètement renversé la table et puis l'ont remise à l'endroit et puis l'ont remise à l'envers à plusieurs reprises au cours de la dernière année. On a l'impression que 10 ans se sont écoulés, mais non. C'était seulement il y a quelques mois que le Liberation Day a été
annoncé. Absolument, début avril 2025.
Il me semble qu'il y a 3 enjeux hein, sur ces questions commerciales. D'abord, il faut faire en sorte que le libre-échange n'ait pas pour conséquence de réduire les régulations, notamment en matière environnementale, au plus petit dénominateur commun. Et le dispositif qui existe en Europe, qui vient d'être mis en œuvre, hein, donc il est un peu trop tôt pour en effectuer l'évaluation, c'est le dispositif des ajustements carbone aux frontières, donc
le CBAM.
Davantage pour les importations qui viennent de pays étrangers qui sont moins 10 ans sur le prix du carbone. Et ensuite, il y a 2 autres objectifs qui sont en tension. D'un côté, si vous avez des droits de douane trop importants, c'est une taxe directe sur les consommateurs. Donc, vous allez augmenter les prix que les consommateurs, que les entreprises payent sur les...
Est-ce que ça a été vu aux États-Unis, ça ?
Alors, on a noté aux États-Unis qu'en effet, il y avait une transmission des droits de douane, mais la transmission n'est pas un pour un, parce qu'une partie des droits de douane ont été absorbés par les entreprises
par les
qui vont chercher
les
produits aux frontières, et puis ensuite les amènent jusqu'à l'étalage.
Donc le débat sur l'inflation n'est pas monté, c'était ce qu'on disait ici en France, à un moment le consommateur américain va se réveiller, et Donald Trump risque de le payer politiquement, ça n'est pas le cas.
L'inflation a augmenté aux États-Unis, en partie en raison des droits de douane, en partie aussi de façon plus brutale en raison de la guerre en Iran qui a augmenté les prix de l'énergie.
Très clairement.
Certes pas autant qu'en France, mais quand même. Donc il y a ce premier objectif, éviter de provoquer une inflation trop importante. Le second objectif, c'est de préserver, de protéger l'industrie nationale si elle fait face à notamment une concurrence déloyale. Là, on parle notamment de la Chine qui subventionne son industrie. Oui. Alors, la question ensuite, c'est quel protectionnisme vous voulez faire si vous faites un protectionnisme ? Est-ce que vous allez mettre des droits de douane de 30% comme ça a été proposé en France sur toutes les importations chinoises ? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée parce que là, vous perdez sur le tableau de l'inflation. En revanche, il faut, à mon avis, identifier les secteurs qui sont les secteurs les plus stratégiques, les plus essentiels et sur lesquels on est les plus vulnérables parce qu'on dépend seulement un ou deux pays exportateurs. Et sur ces secteurs, renforcer notre compétitivité, diversifier notre offre.
Travailler à nos dépendances.
Si nécessaire, mettre en œuvre les instruments anti-coercition qui existent déjà dans l'Union européenne.
Est-ce qu'il faut choisir le camp américain ? Question un peu provoque,
non,
hein, Yandar, mais
y a
dans la confrontation
aspects.
Économique avec Pékin.
On a le sujet de l'enjeu climatique qui est clé. Donc, il faut trouver une sorte de taxe carbone à un moment donné. Elle est difficile à mettre en place. Il y a un deuxième élément, en théorie des jeux, ce qui est très ennuyeux, c'est quand vous jouez avec un gars qui est 10 fois plus puissant que vous, donc on peut accuser les Chinois de tous les maux, pas beaucoup de démocratie effectivement, donc ils décident un peu plus vite, c'est pas bien, mais du coup ça leur permet d'avancer. Ils subventionnent probablement, mais c'est très dur à lire, et surtout, ils sont maintenant capables de produire absolument tout.
Eh oui.
On parle des climatiseurs en ce moment. La capacité de production de climatiseurs chinoises correspond à 120% de la demande. Alors, je ne dis pas que c'est eux qui font monter la canicule.
Ils accélèrent.
120% de la demande mondiale. Sur l'automobile, ça va être 150%. Donc, on joue avec quelqu'un qui est trop puissant. Et donc, on ne sait pas très bien comment faire. Donc, on peut... Et troisième enjeu, c'est celui de la souveraineté sur des points clés. Celui qui est le plus marquant, c'est celui des médicaments. C'est-à-dire que l'idée qu'on répète depuis le Covid, on n'est pas capable de produire, on n'a pas la substance, l'ingrédient initial qui permet de faire des antibiotiques. Et donc là, il faut se défendre sur la souveraineté. Donc je suis assez d'accord avec Vincent. Faut trouver les quelques domaines stratégiques, sauf qu'ils sont incroyablement rare parce que la Chine est sur tout le spectre de la production. Et oui. Absolument. Et demain, c'est l'aéronautique. Vous avez évoqué dans votre débat hier le débat sur le COMAC et les chaînes d'Airbus. Donc, on a un acteur qui est trop puissant. Alors, il y a un deuxième acteur puissant qui est les États-Unis qui peut, lui, jouer au bras de fer. Et nous, bon, on a notre marché de consommation, mais comme le sujet numéro un, c'est le pouvoir d'achat, si...
C'est un peu la question que j'allais vous poser, effectivement. Est-ce qu'on est prêt à payer plus cher aussi?
Personne n'est payé à payer plus cher. Et, donc, oui. Et les élus, ils doivent répondre en permanence dans des pays démocratiques à la demande des gens, c'est-à-dire avoir du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est fourni, on le sait très bien, le textile, oui. qui était très cher il y a 50 ans en France, on l'a déjà dit 10 fois, acheter un manteau, c'était un enjeu il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça l'est plus, même pour 90% des Français.
On dit souvent que c'est 1500 euros de pouvoir d'achat en plus pour les ménages français, les produits chinois. Vincent Ponce.
Gilles disait tout à l'heure, lacets, on en a partout, on en produit partout, on en utilise partout. C'est en fait, par définition, c'est l'idéal type d'un produit qui n'est pas un produit stratégique sur lequel on n'a pas une forte dépendance. Parce que si un pays décide d'augmenter son prix de production, on peut se tourner vers un autre pays. Donc, il n'y a aucun risque d'être... forcé à adopter des...
Sauf s'il y a une guerre mondiale.
Ouais, mais là, on peut aller chercher chez un autre producteur. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment un blocus qui se fasse sur l'ensemble de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, on pourra diversifier. Donc, c'est en effet plutôt vers les produits d'hôpitaux, les produits pharmaceutiques, les terres rares. C'est plutôt sur ces produits-là qu'il faudrait mettre en œuvre des...
On a une vision claire. Moi, je trouve qu'il y a toujours manqué une taxonomie, c'est-à-dire la liste des produits.
Elle existe,
comme
donc
ça,
il y a une note du Conseil d'analyse économique de Xavier Jaravel, Isabelle Méjean, qui dresse la liste de ces produits qui sont à la fois essentiels et sur lesquels on a un risque de dépendance.
Non, mais pour reboucler ce avec quoi on a commencé, dans le cas des médicaments, c'est très simple. Il y a un marché mondial du médicament et la Sécu n'achète pas assez cher les médicaments. Et c'est pour ça que la production française est partie. Donc, la solution,
ça sera
c'est de payer
bon débat,
plus cher et donc...
d'en plus reparler. Merci à tous les trois, Guillaume Dard, Vincent Ponce.
On comprend qu'il faut se réveiller en France. Hein.
Pour cette émission passionnante et vivante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.